La boule à neige sans le geste, ce n'est pas la boule à neige. La boule à neige, elle a besoin du geste. Là, elle est comme ça, elle est inerte. Si on fait ça, là, elle est vivante. Et systématiquement, vous posez une boule de neige là, et les gens la touchent.
On a la chance d'être sur une scène de théâtre à l'espace Cardin et vous avez apporté d'autres petites scènes, vos boules à neige. Mohamed El Khatib, laquelle vous avez devant vous?
J'en ai trois. J'ai un hibou, j'ai une boule à neige qui contient les coquillages et celle de l'AS Saint-Étienne.
Et vous n'avez pas fait tomber la neige encore?
En vérité, ça me démange depuis que je suis là.
Patrick Boucheron, c'est rassurant, une boule à neige?
C'est très rassurant. Mais c'est un abri précaire, on l'a bien vu en commençant à en parler. À Saint-Étienne et à Nantes, on ne peut pas penser sérieusement que ça nous abrite de toutes les tempêtes.
Et là, vous venez de renverser la neige de la vôtre. C'est
quelle... Du Mont-Saint-Michel, elle est beaucoup plus modeste, la mienne. Mais voilà, j'ai le sens des hiérarchies.
Zabou Breitman, vous avez la vôtre?
Oui, j'ai apporté une petite boule à neige. Alors, c'est une boule à paillettes, en vrai. C'est pas une boule à neige, mais c'est le même principe. On peut pas s'empêcher de la retourner et regarder ce qui se passe. Et ce qui se passe, ce sont des petites paillettes qui tombent sur un singe doré, qui est un singe de la sagesse, je pense. Voilà. Et on le tourne. L'eau est très sale, hein, donc on voit plus grand chose. Mais enfin bon, on se dit qu'il doit être quand même un peu à l'abri.
Et il paraît que ça impose le silence, la neige qui tombe, Patrick Boucheron.
Oui, ça fait taire les paysages. On parle aussi d'ailleurs de cette eau sale, parce qu'il y a plein d'histoires sur cette eau sale qui viendrait des ports pollués de Hong Kong. Enfin voilà, c'est aussi l'histoire de l'environnement. Hein.
Alors vous qui nous écoutez, peut-être vous pouvez penser à un paysage qui vous fait du bien et imaginer la neige qui tombe. Qui fait la neige qui tombe?
Moi je vais vers la neige qui tombe, la neige qui tombe, la neige qui tombe. La neige qui tombe, 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 la neige qui tombe.
Il est 20h02 sur France Culture et la vie est dans les détails et dans les objets. La vie, quand elle part aussi, elle reste là où on l'a déposée. Mohamed El Khatib fait, sans le dire, depuis quelques années, un inventaire de nos chagrins et puis de nos passions inavouées pour des objets qui rattrapent le temps et les sentiments, qui les arrêtent, qui les racontent. Ce n'est pas pour rien que son premier texte de théâtre s'appelle « À l'abri de rien ». Il met sur scène ceux qu'il rencontre et leur destin. Une femme de ménage, des enfants dont les parents ont divorcé, des parents qui ont perdu un enfant. Des professionnels pas du spectacle, mais de la vie, qui perd et qui gagne et vice-versa selon les moments. Il le fait avec humour. La vie est dans les objets, sur une étagère ou sur la cheminée. La boule à neige, c'est son nouveau spectacle avec l'historien Patrick Boucheron. La boule à neige, c'est le théâtre en miniature, le monde en petit, celui qu'on voudrait préserver, celui des souvenirs où on aimerait aussi lire l'avenir. Zabou Breitman consigne, elle aussi sur scène depuis des années, la liste de nos folies et de nos pas de côté. Elle invente chaque fois des mondes, et un de ses titres semble la suivre partout, « Se souvenir des belles choses ». Walter Benyamid, qui avait sa collection de boules à neige, définissait le fait de collectionner « conjuration enfantine contre la méchanceté du monde ». Malheureusement, Patrick Boucheron sur scène répond vite qu'il ne sera pas l'historien qui rassure sur l'origine et la continuité de nos histoires. Il décrit la boule à neige comme une enfance portative indemne de son inquiétude. Alors, on n'est pas indemne en ce moment, la scène non plus, mais on est obstiné. Et la boule à neige, c'était parfait pour se tenir exactement entre les souvenirs et l'avenir. Au théâtre, sur la scène de l'espace Cardin, nous sommes en direct, nous sommes aussi filmés et en direct sur la chaîne YouTube du Théâtre de la Ville. Avec nous donc Mohamed El Khatib, Patrick Boucheron qui nous parleront de Boule à neige, la première a eu lieu au Grand Thé à Nantes.
Et puis la suite, c'est prochainement, dès que possible, pour entrer à l'intérieur des répétitions qui ont lieu en ce moment, Zabou Breitman qui prépare des textes de Dorothy Parker et qui nous en offrira un extrait. Et puis sur notre scène, Yael Naïm venu avec sa guitare pour deux morceaux en direct. Un EP avec quatre morceaux inédits de ses chants de nuit vient de sortir, Unreleased Night Songs. C'est tous en scène sur France Culture. On commence par prendre des nouvelles du théâtre dans le monde. Depuis fin août, on a reçu des messages de Pékin, de Beyrouth, Tel Aviv, Ouagadougou, Tokyo, Lima, Madrid, Athènes, Helsinki, Mexico, Zagreb. Et ce soir, nous sommes sous le ciel de Kigali, au Rwanda, avec l'auteur, metteuse en scène, comédienne, Carole Karemera, qui rentre des récréatrales de Ouagadougou.
Bonsoir à tous de Kigali. Je vous appelle de Gachuriro. C'est une des nombreuses collines. Ici, le ciel est gris. Ben oui, c'est la saison des pluies. Les nuages sont gorgés d'eau. Parfois, il pleut sur la colline d'en face. Il y a une heure, il pleuvait sur ma colline. Et maintenant, le ciel se dégage tout doucement, juste le temps de nous laisser apercevoir la lumière avant que la nuit ne vienne. Les collines sont vertes, très vertes en ce moment, parce que comme il pleut beaucoup, ben la terre en profite, elle se régénère et elle nous offre des teintes de vert que je crois il n'existe nulle part ailleurs qu'ici. Le samedi en général à Kigali et le dimanche les gens se reposent. On entend à gauche à droite les radios, on entend parfois les chants d'un mariage, les gens qui en profitent pour nettoyer le jardin, faire le linge qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant la semaine. Je suis sur ma terrasse. Et le tank de mes voisins, le tank d'eau, vous savez, ici on collecte la pluie. Tout le monde a des tanks, ça fait partie du paysage avec les collines. Je crois qu'au pays des mille collines, il doit y avoir davantage de tanks qui sont perchés comme ça sur des petites tours de fer. Ils sont gorgés d'eau, ils débordent. Alors voilà, je vous appelle de Kigali, où les choses sont très calmes ici, au niveau du théâtre, un peu comme partout ailleurs. On en profite pour retourner du côté de l'écriture. Et donc, voilà, à partir de cette position parfois horizontale, que j'ai beaucoup en ce moment, parce que voilà, je me suis chopé le palu, la malaria au récréatral, qui était un pur bonheur de chaleur à tous les niveaux. La chaleur 38 degrés jusqu'à la chaleur humaine dans les rues de Ouaga. Alors voilà, je suis venue me reposer chez moi, sur mes collines, et retrouver les gens avec lesquels j'aime à imaginer les projets de théâtre. Donc ici, les choses sont très calmes, puisqu'on a peu ou pratiquement pas encore le droit de se rencontrer dans les scènes théâtrales, alors on écrit. On réfléchit à comment parler de ces injustices profondes que ces temps incertains ont creusé encore plus profondément, un peu comme la pluie, vous savez, quand elle dévale des collines et qu'elle creuse les routes et les sillons qui rendent difficile la circulation des motos et des camions et des gens. Et on regarde comment replanter, comment rediriger les rivières qui débordent vers les zones un peu plus asséchées. Et c'est un temps de méditation au pays des mille collines.
Pour Carole Karemera, c'est un temps de l'écriture et de méditation. Pour vous, c'est quoi comme temps, Mohamed El-Khatib et Patrick Boucheron? Votre première de La boule à neige, c'était la veille de ce confinement-là, le 29 octobre. Et au tout début, je crois, Mohamed El-Khatib, vous disiez, moi, pour rire au public, j'ai hésité à venir, j'avais pas très envie. Et puis, Patrick Boucheron vous a répondu, pour moi, c'était important d'être là avec toi ce soir. C'était quoi le sentiment de tous les deux?
C'était pas pour rire. Moi, j'ai vraiment hésité parce qu'on n'était pas bien. On n'était pas bien. Et il y a des moments où ça paraît presque indécent de jouer à tout prix. Et j'étais un peu fébrile. Il y avait encore des attentats. On allait de nouveau confiner. Donc, j'étais pas serein. Je me disais, non, show must go on. Non, pas à tout prix. Il faut qu'on... Et puis on a discuté un peu avec Patrick, et puis je crois qu'on s'est mutuellement convaincus en disant mais il va y avoir des gens, alors faut qu'on y aille.
Patrick Moucheron.
Oui, oui, il faut qu'on y aille, parce que pas pour des raisons surdimensionnées ou extravagantes, parce que le théâtre, ça serait un acte de résistance. Non, non, parce que les gens étaient là, parce qu'on avait un rendez-vous, parce que d'une certaine manière, quel que soit finalement notre état d'esprit, la première chose à faire quand on a un rendez-vous, c'est de l'honorer. Et que, de toute façon, ce dont on avait à parler, c'était de la fragilité de cet abri précaire et frêle que sont effectivement ces boules à neige qui croient pouvoir mettre sous cloche le monde pour contenir la tempête et qui n'y parviennent jamais. Donc le fait qu'elles se brisent ce soir-là faisait d'une certaine manière partie de, je ne veux pas dire du spectacle, mais de l'expérience.
Zavou Bretman, il est différent ce confinement-là par rapport au premier, parce que vous répétez, parce que vous êtes en travail.
Oui, il est différent, mais dans le premier confinement, c'est nouveau, donc vous avancez, vous ne savez pas la taille de la colline, parce qu'on parlait de colline tout à l'heure. En revanche, au deuxième, vous avez l'impression que vous l'avez déjà vécu et que la colline est beaucoup plus lourde encore. Et de répéter ou d'écrire, moi je trouve ça extrêmement compliqué, alors qu'on pourrait se dire qu'on a le temps. Mais quand il n'y a aucune perspective, le fait de ne pas avoir une date à arrêter fait que, par exemple, je ne peux pas apprendre mon texte, je n'arrive pas à mémoriser. C'est incroyable, moi qui suis plutôt hypermnésique, rien du tout, ça ne rentre pas, ça ne s'imprime pas. C'est très perturbant.
Yael Naïm, c'est aussi un temps de l'écriture en ce moment ou pas?
Moi, c'était un peu bizarre parce que j'étais moi-même dans une sorte de confinement pendant 4 ans pour donner naissance à Night Songs. Il est sorti pendant le premier confinement et donc je me dis, c'est pas grave, on va rebondir. Je sors le Unreleased Night Songs et voilà, et c'est tombé pendant le deuxième confinement. Donc ce projet a comme destin de sortir pendant ces confinements. Et du coup, j'écris un peu tout le temps, mais je plonge pas encore tout de suite dans une écriture. Ça va pas tarder à venir, mais j'avais envie d'accompagner un peu ce projet avec ce que je peux faire. Et puis c'était intéressant pour se remettre en question toute notre manière de faire, notre manière de communiquer. Voilà, c'est une grosse contrainte qu'on est en train de vivre. Et des contraintes, c'est quelque chose qui nous arrive dans notre vie privée aussi, et ça peut arriver à plusieurs échelles. Et voilà, on peut aussi utiliser ça pour une période de renouvellement, en quelque sorte.
Alors, on va parler boule à neige et collection, et on va commencer par la voix du sculpteur Armand, qui parle des gestes qui nous constituent. C'était en 1997.
Il y a toujours un avant. Et c'est très important, on se bâtit sur le... On se construit sur ce qui s'est passé avant. Nos papas, nos mamans, on est toujours issus de toute une série de gestes, et c'est ça qui est rassurant d'ailleurs, c'est ça qui fait l'humanité. Donc c'est l'avant, et on va fournir l'après.
Vous avez souvent dit, vous, que votre façon d'accumuler, de collectionner, tout ça, c'était quasiment génétique, puisque oui. Avant, vous, justement, vous aviez une grand-mère, un grand-père, je crois, qui gardait tout. Oui. C'est vrai que votre grand-mère, vous avez retrouvé des cartons avec des bouts de ficelle datés.
Des bouts de ficelle, des bouchons, par année.
C'est incroyable,
des choses comme ça, des capsules, tout ça par année.
Mais elle avait l'intention d'en faire quelque chose, selon vous?
Elle les a mis dans des boîtes et elle les a datées. C'est tout.
Qu'est-ce que vous en avez fait?
Avec les bouts de ficelle, j'ai tous pris plusieurs années de bouts de ficelle. J'ai mis ça dans une grande boîte, j'ai collé et j'en ai fait une accumulation qui s'appelle la fortune sourue aux audacieux. Et c'est dans un musée en Belgique.
Ce sont les audacieux qui gardent? Ce sont les audacieux qui conservent?
Non,
qui
justement,
gardent.
C'était non, un côté complètement contradictoire. Il n'y avait pas un côté audacieux à garder tous ces petits bouts de ficelle. Bien fermé. Non, c'était le titre était un peu surréaliste. J'aime bien d'ailleurs les titres qui sont pas directement en relation avec l'œuvre.
Zabou Breitman, vous acquiesciez au bout de ficelle.
Oui, mais parce que moi j'avais une maman qui venait d'un milieu au Québec, un endroit où il pleut, où il a beaucoup de neige là pour le coup, et qui gardait tout, une famille très très pauvre, mais c'est peut-être pas la raison première, hein. Je sais pas si c'est que ça en tout cas, ou peut-être pas que ça, et qui gardait absolument tout. J'ai retrouvé les premières photos quand elle était amoureuse de mon père, qui était déjà un peu célèbre, et alors elle avait des photos qui étaient parues dans le journal. J'ai retrouvé ça dans un portefeuille. Elle avait 17 ans, je crois. Donc, il y a tout. Elle a tout gardé. Elle avait tous mes cahiers quand j'étais petite. Tout conservé. Et je me dis, c'est drôle, je chine, je vais encore chercher des machins, des trucs, parce que j'adore ça, les regarder, des brocantes, je peux passer des heures à regarder juste les objets, je suis fascinée par les objets, et donc je pense que voilà, ça me fait penser à ça, quoi, ouais.
Mohamed El-Khatib, quand vous avez pensé à proposer la scène de théâtre à Patrick Boucheron, est-ce que la boule à neige était présente dès le départ? Comment elle est arrivée?
Non, pas du tout. Elle est arrivée accidentellement. Non, il y avait des velléités d'histoire de l'art, d'une histoire populaire de l'art, de ce que peut être un art modeste éventuellement, mais c'est presque incidemment qu'elle est arrivée, presque comme une plaisanterie, et puis finalement, on a fini par la prendre au sérieux, la boule à neige. Elle nous a un peu dépassés.
Et le temps aussi a pour nous mis de la gravité dans cette plaisanterie, comme le dit Mohamed. Il y avait, oui, d'abord, peut-être l'idée de s'intéresser avec un peu de reconnaissance et de dignité à un objet méprisé, ou enfin en tout cas peu considéré. Et peut-être que on a commencé à parler au moment des ronds-points, au moment des gilets jaunes, et puis cette circularité de la boule à neige commençait à nous intéresser et à nous inquiéter. Et on ne savait pas que, en fait, ce qu'on préparait, c'était justement cette question de la mise sous cloche du monde. Et aujourd'hui, lorsqu'on en parle, évidemment, on peut prétendre qu'on parle d'autre chose, mais c'est cela qu'on entend. Et donc, on fait avec, mais comme femme et homme de théâtre, bien sûr, mais comme historien aussi, on fait avec ce que le temps fait de nos objets. Voilà, c'est-à-dire que le temps affecte nos passions, nos envies, nos curiosités d'une signification qu'on n'avait pas prévue et avec laquelle on doit bien cohabiter.
Et ça ressemblait à quoi justement les répétitions? Vous parlez de rêverie souvent, Mohamed El-Khatib, puisque vos collaborateurs sont très différents à chaque objet théâtral. C'est pas forcément des acteurs, d'ailleurs presque jamais. J'imagine que quand c'est une conversation avec Alain Cavalier, vous répétez pas pareil que quand c'est des enfants qui ont 8 ans, pas de la même façon quand ce sont des supporters du FC Lens. Et là, avec Patrick Boucheron, un historien, comment on rêve ce moment théâtral?
C'est extrêmement incertain parce que d'abord, je dois avouer qu'on a très peu répété, mais qu'on a beaucoup discuté. C'est une conversation au long cours où on a fait beaucoup de détours, qu'entre-temps, on a rencontré des collectionneurs, et que d'un coup, on se rend compte que collectionner, c'est un geste d'art modeste, que ça pose la question du goût, du bon goût, du mauvais goût, et puis que ça repose aussi la question de la valeur ou du renversement de la valeur, puisque, par exemple, ces petits objets n'ont aucun prix ou à peine. Par contre, ils ont une valeur sentimentale, affective, nostalgique. Et ça n'a pas de prix. Et donc, on se laisse porter. Et puis, au fur et à mesure, l'accumulation de ces conversations, on arrive à une somme qui, aujourd'hui, peut faire on peut considérer qu'elle fait spectacle. Mais c'était pas gagné. C'est jamais gagné. Et ça s'invente en chemin.
Et il y a deux personnages assez différents qui sont importants dans La boule à neige. Mémé Yvette, qui faisait partie de Stadium, le précédent spectacle avec les supporters du FC Lens, et Walter Benjamin.
Oui. Mémé Yvette, c'est celle qui, d'une certaine manière, nous a amenés au boule à neige, parce qu'elle en a une collection. Elle ne collectionne pas que les boules à neige, mais elle en a une collection. Et effectivement, lorsque Mohamed me disait, tiens, on va parler des tableaux de la Renaissance, enfin, de l'histoire de l'art, je lui dis, ok, mais moi, mon métier, mon travail comme historien de l'art ancien, c'est de voir le fond des tableaux, ou plus exactement de voir les tableaux par le fond, de commencer par, disons, le dernier plan. Et le dernier plan de Stadium, ou enfin en tout cas des images qui donnent à voir Yvette, c'est sa collection de boules à neige. Donc j'ai commencé par regarder ça et aller voir au fond ce que l'histoire laisse de manière subreptice, discrète, frêle, fragile. Bah oui, c'est aussi Walter Benjamin. Donc on peut le dire deux fois, on peut le dire très simplement avec voilà des amis dans la vie ordinaire, et on peut le dire de manière anoblie avec nos lectures, mais c'est la même chose, parce que Walter Benjamin, il collectionnait les jouets d'enfants russes, les cartes postales, les dessins de fous, les timbres-poste et les boules à neige, et indifférent au fond à la valeur, à la hiérarchie symbolique qu'on peut mettre, nous ou pas d'ailleurs, dans ce désir d'accumuler.
Mohamed El-Khatib, je disais au début de l'émission qu'il y avait toujours un lien avec le chagrin, ou le deuil, ou le souvenir, ou la perte. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Ben, plus que jamais. D'abord, il y a le deuil de l'enfance, parce que c'est quand même un objet enfantin qui a trait avec l'enfance. Et donc, il y a toujours cette nostalgie de... Quand même, c'était rassurant avant. Et puis, avec le deuil... Ça nous a sauté à la figure quand on a rencontré Joseph Cardinal, un des collectionneurs allemands, qui a mis les cendres de ses parents en boule à neige. Et d'un coup, ce type invente l'hôtel portatif, sur lequel vous pouvez vous recueillir, et il met à distance, enfin, il rend présent, il rend pour l'éternel ses parents. Et donc, savoir avec la mémoire et rien d'autre qu'avec le deuil.
Puis il m'a demandé, évidemment, comme j'étais l'historien de service, il m'a demandé de faire l'historique de la boule à neige, qu'il connaissait très bien, parce qu'en fait, on a travaillé ensemble pendant un an, et cette causerie délicate dont Mohamed parle, on peut dire aussi que c'est de la recherche, finalement. On a aussi collecté des témoignages, des rencontres, des paroles.
À la recherche de la boule zéro.
Voilà.
Parti.
Et donc la recherche de la boule à zéro, bah oui, c'est la malédiction en fait d'être, de se prétendre historien, ou en tout cas de faire profession de continuer à l'être, c'est qu'on va vous dire à chaque fois, mais quand ça a commencé, quel est le début, quelle est l'origine ? À l'origine de la boule à neige, à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, elle est strictement contemporaine de deux objets qui y font penser, qui est la boule de divination, c'est-à-dire voilà la boule de la voyante, et l'urne funéraire. Donc ça a à voir avec cette capacité qu'on a à retenir le passé, parce que c'est ça en fait. Une belle boule à neige est celle qui fait retenir la neige. La neige ne tombe pas d'un coup, elle reste en suspens et elle blanchit des ruines, souvent. Et ces ruines, ce sont les ruines de l'avenir. Donc il y a quelque chose qui a à voir avec le futur et un passé qu'on ne veut pas oublier. Donc oui, c'est du deuil. C'est du deuil portatif.
Sur scène, vous êtes tous les deux entourés des boules à neige. Et puis, il y a quelques vidéos, des témoignages que vous avez récoltés de collectionneurs. On va écouter un petit extrait.
Ceux qui ne me connaissent pas ne me croient pas quand je dis que j'ai une collection de boules à neige. C'est pas du tout... Je suis plutôt plus rock'n'roll, moi, donc... C'est ce côté contraste, personne ne me croit. Je dis, boule à neige, ouais, tu sais, les trucs de secours. Non, mais si, j'en ai plein. Et là, on dit, elle est folle. Peut-être un peu aussi, hein, mais...
Et vous rencontrez d'autres collectionneurs de boule à neige ?
Non, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que ça suffit avec ma névrose personnelle. J'ai pas envie de rencontrer d'autres névrosés. Hein. Oula. Qu'est-ce qu'on se dirait ? T'as vu celle-là et celle-là ? Non. Ça, surtout pas.
Ah oui, il y a quelques boules à neige dont je ne me séparerai pas. Je les emmènerai dans mon cercueil en forme de boule de neige.
Mes parents étaient des enseignants qui, à l'époque, sans doute, auraient considéré ça comme peut-être une faute de goût, d'avoir des boules neigeuses. Mais c'est pas... Bon goût, mauvais goût, ça n'existe pas. On a du goût ou on n'a pas de goût. Moi, j'ai des goûts. J'ai du goût, qui est peut-être du mauvais goût, mais j'ai un goût. Je crois que toute collection, on en fait ce qu'on veut ou ce qu'on est. Ça correspond à un individu et... Par exemple, moi, j'éprouve un dédain envers les collectionneurs de timbres.
Mohamed El-Khatib, il faut savoir qu'il faut à peu près 3000 boules pour rentrer dans le club des collectionneurs, c'est ça ?
À partir des Happy Few, c'est un cercle très fermé. Ouais.
Il y a cette question, toujours dans votre travail aussi, Mohamed El-Khatib, de la culture légitime, du bon goût, de qui, en tout cas, doit monter sur une scène ou pas, quel corps. Ça aussi, c'était présent dès qu'on pense à une boule à neige, on pense au kitsch, on pense tout de suite à ce dont elle parle, le bon goût, le mauvais goût.
Ça, par exemple, quand j'entends Mireille parler d'une faute de goût, d'une certaine façon, moi, je l'envie, Mireille. Je dis dans le spectacle, je jalouse sa liberté qu'elle a d'aimer ce qui la touche vraiment. Et ce que parfois, moi, j'ai pu perdre. Et combien de fois je me suis fait la remarque en disant, tiens, mais c'est triste, pourquoi quand j'étais adolescent, je passais mon temps à réviser mes goûts culturels pour les rendre acceptables? Pourquoi j'ai rié de mon... mon répertoire, un certain nombre de chanteurs.
C'était quoi le répertoire?
Ça peut être Francis Cabrel, ça peut être Daniel Balavoine.
La compagnie créole, tu dis, dans le spectacle, on va jusqu'au bout.
Le karaoké.
Et pourquoi c'est si peu fréquentable, et pourquoi j'ai passé mon temps à transformer, pourquoi j'avais pas la liberté d'aimer ce qui me touchait vraiment? Et ça, c'est une question qui m'intéresse, parce que dans le fond, le bon goût, le mauvais goût, c'est quand même d'un formidable arbitraire. Alors, il faudrait qu'on puisse les contester en permanence, et ce projet le permet, c'est-à-dire de réattribuer de la valeur, ou d'autres formes de valeur, à ce sur quoi on s'accorde habituellement. Et donc, du coup, s'interroger à qu'est-ce qui fait qu'un objet devient un objet légitime, par quelle opération de consécration, de sacrement, ça devient un objet reconnaissable. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, de l'eau devient de l'eau bénite? Eh bien, il faudrait s'interroger sur la personne qui permet cette transformation.
Zabou Bretman, j'ai l'impression que vous avez hérité de votre père cette idée qu'il n'y a pas de hiérarchie, justement, oui. Entre les genres, entre le cabaret, la magie, tout ce qui était présent chez vous dans l'enfance.
Oui.
Et donc, il n'y avait pas de culture légitime ou pas?
Non. Pas du tout, mais il était aussi à l'époque, il était né en 21, c'est une époque où il y avait une immense liberté, ça compte beaucoup, c'est une époque où il y a une immense quand même liberté culturelle, on est autorisé à être, à s'amuser avec ce que l'on sait, c'est-à-dire qu'on est autorisé à être ludique, on est autorisé à dire des conneries, à faire des jeux de mots, on peut s'amuser avec un humour dit facile. Ça n'a pas tellement d'importance. On n'est pas en train de présenter ce que l'on sait comme étant le maître étalon du bon goût. Ça n'avait pas tellement d'importance, quoi. Ils s'amusaient énormément avec la culture, mais il était très cultivé, mais ça n'avait pas plus d'importance que ça. Et pourtant, c'était bon, lui, un féru d'histoire. Et connaissait toujours tout, mais tout ça, c'était très léger. Voilà, c'était toujours extrêmement léger. Donc, tout était possible et il pouvait comprendre très facilement comment on pouvait s'éprendre de quelque chose. Énormément. Et ça lui posait pas de problème sur le fait que ça soit de bon ou de mauvais goût.
Patrick Boucheron, souvent, Mohamed El-Khatib demande beaucoup à ceux avec qui il travaille sur scène, notamment des choses assez intimes parfois, puisqu'il témoigne souvent de leur vie. Là, vous restez quand même dans votre rôle d'historien, mais il y a quelques...
Enfin, soi. Ouais.
Il y a quand même quelques petites échappées sur votre grand-mère, sur des choses aussi qui vous ont fait penser de cette façon-là et peut-être échapper, comme vous dites, aussi au dédain, à un certain dédain culturel, une ouverture qui peut-être...
Oui, je pense. C'est la situation qui veut ça. C'est la situation théâtrale. Il faut dire aussi que c'est un théâtre. C'est pas le théâtre du Globe, mais c'est un théâtre circulaire qu'on avait imaginé au départ comme un théâtre d'anatomie, donc un peu abrupt. Et les exigences sanitaires l'ont, je dirais, aplani, l'ont adouci. Et donc c'est une pente beaucoup plus douce, beaucoup plus évasée. Et donc on voit aussi, on voit les spectateurs. Et donc ça permet au fond une sorte de conversation plus intime. Et puis il y a pas de raison que moi je ne parle que de Walter Benjamin et de Marc Bloch. Donc il me dit, bah toi, qui ça serait quoi ton modèle? Bon, au début je veux pas le dire, et puis au bout de trois soirs je dis, bah oui, ma grand-mère par exemple, ma grand-mère paternelle, qui vivait dans un petit appartement seule, elle était divorcée et elle avait, je crois, décidé de ne jamais passer une soirée seule. Alors elle sortait littéralement tous les soirs. Je pense que beaucoup de de gens la connaissaient dans les théâtres parisiens. Elle achetait une salle, enfin une place pas chère, et puis hop, au dernier moment, elle allait au premier rang, et indifféremment pour aller voir de l'opéra, de l'opérette, du théâtre de boulevard, ou ce qu'on pourrait considérer comme... voilà. Donc moi, j'ai vu avec elle à la fois la Septième Compagnie, Jean Lefebvre, etc., mais aussi de l'opéra, de la danse, du ballet, et à un moment où, effectivement, on cherche... comme adolescent, à faire la part des choses, et on construit sa culture par élimination. On est ce qu'on retient, mais on est aussi ce qu'on abandonne. On est ce que l'on décide de ne pas garder. Et moi, je me souviens de ça parce que c'est une forme de liberté un peu crâne qui m'a en fait formé.
Et la scène de théâtre, là, on est au théâtre, à l'Espace Cardin, en direct, Patrick Boucheron, elle vous est pas étrangère, parce que vous êtes dans les théâtres, je pense au TNB à Rennes, où vous êtes associé, vous faites ces rencontres autour de l'histoire tous les mois. Là, vous qui cherchez comment rendre l'histoire la plus vivante à chaque fois et à trouver la bonne adresse, le bon endroit, qu'est-ce que ce spectacle et cet échange avec Mohamed El-Khatib autour des boules à neige vous permet?
Oui, c'est de l'adresse. Il s'agit moins d'élargir une audience que d'expérimenter une forme d'adresse qui n'est pas permise ailleurs. Donc de chercher des endroits où on ne peut faire que là ce qu'on aurait à faire. C'est Catherine Blondeau qu'on salue avec affection, la directrice du Grand T de Nantes, qui nous a mariés, si j'ose dire. En tout cas, nous a fait nous rencontrer. Moi, j'avais avec elle organisé deux fois de suite un festival d'histoire et de théâtre qui s'appelait Nous Autres, et elle milite, elle, Catherine Blondeau, pour un théâtre de la relation. C'est comme ça qu'elle appelle effectivement cette ambition, qui est une ambition toute politique, je veux dire ouverte sur la cité. Donc voilà, on a créé à Saint-Étienne, on l'a poursuivi à Nantes, ça sera ailleurs, on l'espère. C'est une manière d'aller à la rencontre, effectivement, de nouveaux types de relations.
Yael Naïm, on parle de neige qui tombe depuis le début de l'émission. Est-ce que écrire la nuit, puisque c'est ce que vous avez fait ces dernières années, ça a cet effet-là de faire silence, comme quand on retourne une boule à neige?
J'ai pas pensé à cette comparaison, donc je vais pas dire oui tout de suite. Mais effectivement, la nuit, je pense que l'aube aussi, c'est des moments où la plupart de cette partie de la planète est dans l'inconscient. Et donc, j'ai l'impression que oui, ce silence permet d'ouvrir une autre porte. Et c'est vrai qu'il y a des sons que je trouve qu'on entend mieux quand il y a du silence. Et il y a des lumières qu'on observe mieux quand il y a l'obscurité. Donc c'était un espace différent. Et je trouve en plus que le jour, maintenant, on est dans une vie où on court, où on est très sollicité, où il y a beaucoup de bruit tout le temps, du bruit qui vient de partout. Donc ce qui m'intéresse moi souvent, c'est peut-être cette limite, cette fragilité entre le monde conscient qu'on crée et la porte vers le monde invisible, l'inconscient, les rêves, etc.
Écoutez France Culture, nous sommes exactement entre les souvenirs et l'avenir. On retourne une boule à neige, on fait silence et à l'entrée de la nuit, on écoute Yael Naïm. C'est une des chansons écrites dans l'obscurité. L'album Night Songs sortait le 20 mars dernier, au moment où le monde changeait. Et quatre morceaux inédits viennent de sortir fin octobre, dont celui-là qui s'appelle Attendre.
Puis un jour, on se dit Le soleil s'est enfui. Attendre que le ciel nous sombre dessus, qu'on devienne triste et aigri. Puis un jour, on ne vit qu'à travers la nuit là, sur cette terre hostile. Va-t-on pouvoir grandir aussi fragile quand le cœur est blessé? Moi je veux vivre sans regret avant de m'effacer. Attendre que le ciel nous tombe dessus pour comprendre qu'on a tout fait. Se mentir, se cacher, si longtemps j'ai cherché. Apprendre qu'elles sont réelles, ces choses invisibles. Le silence ne nous parle plus. Puis un jour, on se dit qu'on n'a pas vraiment vécu. Et le temps qui nous reste n'attend pas. Et tant que je respire, je reste là. Alors viens, on y va. Mais relève-toi, moi j'y crois. Toute cette peine ne te servira pas. Si on sortait dehors, même si j'ai tort, j'ose suivre ma voie.
Concert privé, juste pour nous et pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube du Théâtre de la Ville, parce que c'est vrai qu'on est sur la scène de l'Espace Cardin sans public, mais au moins on est ensemble et on est dans un théâtre. Oui. Zabou Breitman, on avait envie de rentrer justement dans des répétitions en ce moment, ou en tout cas dans vous êtes en train de répéter des textes de Dorothy Parker. Et de profiter un petit peu de votre travail. Et comme vous nous disiez que vous n'arriviez pas à prendre le texte en ce moment, vous avez votre petit pense-bête.
Ouais, c'est la galère. Vous voulez que je lise?
Oui, alors peut-être Dorothy Parker.
Qui sait?
Elle disait, je hais le théâtre parce qu'il mord sur mon temps de sommeil.
Ouais, voilà. Alors elle disait ça. Elle a dit aussi, quand elle était sur Vanity Fair, elle a dit un truc très drôle sur un théâtre qui fermait à cause de la grippe espagnole. Elle a dit, ils ont fermé soi-disant pour la contamination, mais en fait ils avaient tellement des mauvaises critiques que je pense qu'ils de toute façon ils n'auraient pas tenu. Donc elle a dit voilà. Et ensuite, par rapport aux cendres, je pensais beaucoup à Dorothy Parker qui a fait quand même. Enfin, qui avait dit en blaguant, mais elle l'a fait, et puis elle continue toujours à parler de ses cendres ou de sa mort, tout le temps. Et elle avait écrit, elle avait fait graver, elle a dit qu'elle aimerait bien qu'on écrive sur son urne. Alors, en anglais, c'est plus drôle, mais bon, il y a un petit jeu de mots, c'est « excuse my dust ». Bon, désolé pour ma poussière, ce que je trouve quand même super bien, quoi. Donc, je pense que ça la résume très bien, ça la raconte très bien. On l'appelait « the wit », la futée. Et on l'appelait aussi, donc de Dorothy, on l'appelait Dot. Et c'est drôle parce qu'on lui donnait des noms qui sont des monosyllabiques et il y a toujours quelque chose d'extrêmement vif, donc dans la monosyllabe, comme elle était, vive, petite, menue, rapide, brillante. Et cette femme, j'avais envie, cette femme qui a légué donc à Martin Luther King, qui en était d'ailleurs bien étonné, qui a légué sa fortune. À l'époque, bon, c'était 20 000 dollars, qui correspondent quand même à 160 000 euros à peu près aujourd'hui. Et ça n'est jamais arrivé, ça ne s'est pas passé qu'une femme blanche qui ne connaît pas du tout Martin Luther King lui envoie ça. Et donc, il était vraiment extrêmement surpris. Donc c'était une femme, une résistante, une féministe, une femme brillante, et j'ai eu envie, mais il n'y a pas que moi hein, qui ai fait ça, il y a plein de gens qui ont voulu parler de Dorothy Parker, C'est comme si, comment dire, on a le fait de pas parler d'elle, elle allait s'éteindre vraiment, quoi. Un peu comme le parcours de ses cendres qui ont finalement été enterrées. La urne a été mise en bière en fin août 2020. Donc ça a mis toutes ces années parce qu'en fait on avait oublié son urne quelque part et donc plus personne ne s'occupait d'elle. Elle est morte seule. Il y a un truc comme ça d'extrême solitude chez cette femme et donc c'est un seul en scène évidemment. Et il y a une, comment dire, elle est drôle, elle est caustique, elle est par rapport à elle-même totalement désespérée, donc très drôle et donc je l'adore quoi. On the promenade, she worked a night shift. Dishwater blonde, tall and fine. She got a lot of tips. Well, earlier I'd been talking stuff in a violent room, fighting with lovers past. I needed someone with a quicker whip than mine. Dorothy was fast. Well, I ordered. Yeah, let me get a fruit cocktail. I ain't too hungry. Dorothy laughed. She said, "That sound like a real man to me. You're kind of cute. You wanna take a bath? Do you want? Do you want bath? Oh, I said cool. I'm leaving my pants on. Cause I'm kind of cool." Someone, she said, sound like a real man to me. Mind if I turn on the radio? Oh.
Ça, c'est la balade de Dorothy Parker, ouais. Et Prince. Et alors, l'extrait que vous allez nous lire, Zabou, Bretman, c'est « Mais celui à ma droite »,
oui,
un des textes qui fera partie du projet autour de Dorothy Parker.
Voilà, ils sont tous issus du New Yorker, de différents New Yorkers dans des années de la Prohibition. Donc il s'appelle « Mais celui à ma droite ». Je savais que si j'y venais à ce dîner, j'aurais droit exactement à ce genre de gros poupon à ma gauche. Ils ont dû me le garder au chaud pendant des semaines. Non, mais maintenant, on est obligé de l'avoir au dîner. Ça aurait été tellement sympa avec nous à Londres. On a calculé à côté de Madame Parker. Elle parle pour deux, alors. Oh, j'aurais jamais dû venir, jamais. Je suis ici contre mes valeurs profondes. Vendredi, 20h30. Procès de Madame Parker contre ses valeurs profondes. Ah, ça serait un bon truc qui pourrait graver sur ma tombe. Où qu'elle se rendit, elle le fit toujours contre ses valeurs profondes. C'est le moment idéal de la soirée pour penser à une pierre tombale. C'est l'effet qu'il avait sur moi, déjà la soupe à peine refroidie. J'aurais dû rester à la maison. J'aurais pu me faire un plateau avec la tête de Saint-Jean-Baptiste dessus. Oh, j'aurais jamais dû venir. Bon, la soupe est terminée. De toute façon, je suis plus près de ça, de ma dernière demeure, maintenant que la soupe appartient à l'histoire et que j'ai dit exactement 4 mots au monsieur à ma gauche. Je lui ai dit « Bonne cette soupe, non ». Ça fait 4 mots. Et il a dit, en effet, oui, ça fait 3. Il me bat d'un mot. À tout niveau, on est en accord total. On s'entend comme des agneaux. On a traversé toute la soupe ensemble et pas un mot de travers entre nous. C'est presque dommage de lâcher le sujet maintenant qu'on a trouvé un domaine sur lequel on s'entend si bien. Je crois que je vais remettre ça sur la table. Je vais lui demander si elle n'était pas délicieuse, la soupe. Il dit, oui, n'est-ce pas ? Non, mais vous avez vu ça, ce contrôle de la syntaxe. Ah, voilà le poisson. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On a du poisson. Je me demande s'il aime le poisson. Oui, il dit qu'il aime le poisson. Ah, ça c'est bien. J'adore ça chez un homme. Oh, regardez, il parle. Non, mais il bavarde comme une pie. Il me demande si j'aime le poisson. Alors, attention. Est-ce que ça l'intéresse vraiment? Ou est-ce juste une formule? Je vais la jouer évasive, je vais lui dire « Oh, assez oui !»« Oh, moi j'aime beaucoup le poisson !» Ah ben, voilà un morceau fascinant de son autobiographie sur lequel il peut plancher. Peut-être qu'il pourrait s'atteler tout seul à cette tâche. Je ferais mieux de m'esquiver tout doucement et de le laisser à ses pensées. Je pourrais tenter une ouverture avec ce qu'il y a sur ma droite. Non, aucune chance de ce côté-là, la femme à sa droite, à lui, le tient au frais. Tout ce que je vois de lui, c'est son épaule. Et c'est une jolie épaule.
Ah oui, c'est une bien jolie épaule. Toute ma vie, j'ai craqué pour les belles épaules. Tout va bien, madame, tu l'as vu la première, hein. Garde-le, ton dieu grec. Moi, je vais retourner à mon cheval de Troie. Bon, alors, on en était où? Ah oui, on en était où il confessait qu'il aimait le poisson. Je me demande ce qu'il aime d'autre. Il aime les concombres? Oui, il aime les concombres. Et les pommes de terre? Oui, il aime aussi les pommes de terre. Ah, ben, c'est un bon vieil amoureux de la nature, ça, madame. Il aura fallu que je vienne à ce dîner pour m'asseoir à côté de monsieur Légumes. Attendez, il dit quelque chose. Les mots coulent carrément de sa bouche. Il me demande si je suis amatrice de pommes de terre. Non, j'aime pas les patates. Eh ben voilà, je l'ai fait. Je me suis affranchie de lui, notre première querelle. Il est tombé dans un silence contrarié. Idiot, tu crois que j'ai éclaté ta bulle? Tu penses que je ne suis qu'une poupée de chiffon avec de la poussière à la place du cœur? Oh, mais ne prends pas comme ça. Bon, faut que je dise un truc qui te rendra la foi. J'adore les concombres. Bon, il va mieux. Il reparle. Il dit que oui, il les aime aussi. Bon, ça c'est réglé grâce au ciel. On aime tous les deux les concombres. Juste lui, il les aime un petit peu plus. Je ferais mieux de le laisser tranquille pour qu'il puisse manger. Il faut absolument qu'il reprenne du poil de la bête. Il est tout étourdi à force de parler. J'aimerais bien avoir un truc à faire. Les gens devraient être obligés de vous avertir quand vous vous asseyez à côté d'un machin pareil, pour que vous puissiez apporter des trucs à faire. Chère madame Parker, venez dîner chez nous vendredi prochain et n'oubliez pas votre carnet de croquis. J'aurais pu apporter le tiroir du haut de ma commode et ranger le bazar là sur mes genoux. Ouais, j'aurais vraiment pu m'avancer pour coller les photos de groupe sur la plage dans mon album. Je me demande si la maîtresse de maison trouverait ça bizarre si je demandais un paquet de cartes. Je me demande s'il y a des vieilles éditions de Tout sur Saint-Nicolas quelque part. Je me demande s'ils n'ont pas besoin d'un petit coup de main en cuisine. Je me demande si quelqu'un n'aurait pas envie que je sorte en courant pour acheter le journal. Oh, je pourrais m'en jeter un derrière la cravate, évidemment. Toute seule comme une grande, il y a toujours cette solution. Oh là là, il y a toujours cette solution. Mais je veux pas boire. Je vais avoir le vin triste. J'ai le spleen avant de commencer.
Merci. Elle est gaie, hein. Elle est très drôle, mais très très triste.
Et sur scène, il y aura Dorothy Parker, et il y aura vous aussi, Zem Bretman. Il y aura. Que vous écrivez.
J'écris. Je sais pas trop comment. Je sais pas. Ah, j'ai envie entre les l'idéal. Enfin, bon, ce sont des idées. Ça, c'est, on sait jamais comment ça se passe après, quoi. Ça bouge encore, hein. C'est un spectacle vivant, c'est ça. Mais l'idéal, ça serait. De passer de choses comme ça écrites, d'accord. Enfin, là, en l'occurrence, je le saurais par cœur, sans le jeu de mots, bien sûr. Mais bon, et passer de choses lues et glisser du style indirect au style direct, sans qu'on voit les coutures. Voilà, ça serait l'idéal. Je sais pas si ça se comprend ce que je raconte, mais voilà, l'idéal, ça serait de passer. J'aime beaucoup de passer du style indirect au style direct. Donc, de commencer à lire en disant il dit, elle dit, et puis lentement oublier le style indirect et être dans le moment, dans le présent. Voilà, sans arrêt faire des allers-retours entre le moment, casser le quatrième mur régulièrement, parler, raconter la prohibition, le vote des femmes qui bizarrement se passe la même année mais qui ont un rapport l'un avec l'autre curieusement et ainsi de suite et continuer et avancer et parler d'elle et de tout et comme tout ce qu'on fait dans n'importe quel spectacle au fond, hein, mais bon, on parle toujours de la même chose on va dire, mais voilà et juste espérer que les gens la connaissent un peu et l'aiment comme je l'aime, quoi.
Ça ressemble au mot rêverie dont parlait Mohamed El-Khatib avant un spectacle et à l'échange et la rêverie, la discussion et ça bouge. Et peut-être qu'on peut glisser de la neige au soleil, Yael Naïm. Je crois que vous nous avez préparé un autre morceau de nuit, mais qui s'appelle The Sun. Alors Yael s'installe, attrape sa guitare et ce morceau fait partie du disque Night Songs. Thank you.
crying the light and the sun, crying for all that you've done, crying for everything you should have done by now. Crying the light of the sun, crying for all that has gone, crying for everything you should have known by now.
Merci beaucoup Yael Naïm. Alors depuis le début de l'année, depuis fin août, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont venus en studio parler de théâtre. Je pense à La Belle Jeunesse de Tremblay en France, au Conseil des Jeunes de la MC 93 de Bobigny. Et Mariama, qui est à Bobigny, était venue nous voir en studio et elle nous a laissé un message et quelques questions pour vous. Zabou Bretman, Patrick Boucheron, Mohamed El-Khatib, Yael Naïm, on l'écoute.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas j'essaie, mais c'est compliqué. Je suis Mariama Seydi, j'ai 20 ans, je suis membre du conseil des jeunes de la MC 93 et j'ai pu participer à l'émission lors de la réouverture du théâtre et j'étais toute excitée parce que je retrouvais quelque chose que je n'avais pas vu depuis des mois et toute la question était comment retrouver le théâtre et je me rappelle que j'étais juste heureuse et maintenant on est reconfinés. Mais là, je me retrouve pour vous poser des questions sur comment est-ce que justement vous imaginez l'avenir du théâtre? Comment est-ce que vous mettrez en place des choses pour que Le théâtre évolue avec son temps, mais aussi avec les problèmes qui arrivent, qui seront de plus en plus récurrents. Une question qui, là, va un peu plus me toucher, vu que maintenant il est difficile d'avoir 20 ans, je me demandais quelle a été votre jeunesse, quels étaient vos espoirs lorsque vous aviez 20 ans, quels a été vos combats pour que l'avenir se passe un peu mieux. Je me demandais qu'est-ce qu'était d'avoir 20 ans avant. Et là, vu que vous êtes devant une boule de neige, quel décor est-ce que vous mettriez dedans? Quelles sont les plus belles choses que vous regrouperiez dedans? Comment est-ce que vous lirez cet avenir un peu incertain? Vu que moi, j'ai un peu l'impression d'être nostalgique d'une vie que je vivrai peut-être jamais. Et question un peu bête, vu que Noël approche, je me dis, est-ce que cette année, on va retrouver la magie de Noël, même si parfois on la fête pas, mais il y avait une certaine ambiance autour de Noël. Et je me demande si cette année, on va la retrouver. Et question pour vous, de quoi est composée cette magie de Noël? Parce que moi, j'arrive pas vraiment à savoir. Merci et je vous souhaite bonne chance pour l'avenir.
Ça fait beaucoup de questions et il nous reste à peu près 2 minutes. Alors ça va être mais une phrase pour Mariama peut-être, pour répondre Mohamed El Khatib, Patrick Boucheron, Zabou, Yaël.
Mais je sais pas, moi je pense que le 20 ans est individuel. Il est sociétal bien sûr, mais je ne pourrais jamais parler de mes 20 ans qui ne ressemblent absolument pas aux 20 ans de tellement d'autres gens que voilà quoi. Donc c'est quand même, je viens d'un endroit où tout était possible, mais parce que mes parents étaient comme ça et parce que j'ai lutté pour plein de trucs, je me suis battue mais avec tous les possibles. Donc c'est pas forcément, ça ressemble pas forcément aux autres.
Oui, en plus chaque fois qu'on a 20 ans, je sais pas, moi j'avais l'impression qu'avant c'était mieux, que les parents nous disaient dans notre époque c'était mieux, c'est un peu qui se répète, et moi j'ai juste envie de lui dire prends la vie en main, fais ce que tu peux et invente un truc que nous on n'a pas su inventer.
Mohamed El Khatib, Patrick Boucheron, vous mettez quoi dans la boule à neige pour lui répondre?
D'abord, c'est vrai qu'on demande souvent, y aura-t-il de la neige à Noël? Alors, on n'en sait rien. Et moi ça me rend plutôt mal à l'aise et je crois qu'il faut apprendre à vivre avec ce malaise. Moi j'ai envie de mettre des gens que j'aime. J'aurais envie de mettre des gens que j'aime dans les boules à neige, et en même temps, ça serait pas leur rendre service. Donc, je crois qu'il faut les laisser en liberté. Et la liberté est une des plus belles choses après laquelle on puisse courir, surtout quand on a 20 ans. Donc, j'ai surtout pas envie de l'inquiéter, Mariam.
Patrick Boucheron, on a 5 secondes à peu près.
Oui, il faudrait mettre toute notre histoire. C'est ce que j'essaie avec d'autres, d'organiser justement au MC 93, un cycle de, voilà, qui est pas de conférences, mais en fait de rencontres sur toute notre histoire. Est-ce que, à l'adresse des jeunes, bien sûr. Moi, à 20 ans, on m'avait dit que j'arrivais un peu trop tard. Que c'était mieux avant. Et il faudrait, c'est pas facile aujourd'hui, pouvoir démentir cette idée.
Ne nous inquiétons pas et croyons en la magie de Noël. J'espère qu'elle sera présente. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation. Merci à l'accueil que nous avons reçu à l'Espace Cardin grâce à son équipe, à la technique ce soir. Merci à Stéphane Foulon, Pierre Bornard, Olivia Branger. Il sera bientôt 21h. Vous écoutez France Culture. Surtout, restez avec nous. Nous restons en direct de l'Espace Cardin et nous retrouvons dans une minute Blandine Masson avec Anna Mouglalis pour entrer dans le poème. À tout de suite.